Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'Amérique latine présente le plus grand degré de biodiversité sur la planète. Et la plupart des pays qualifiés de pays de mégadiversité se trouvent en Amérique latine. Et ils sont donc particulièrement exposés à l'utilisation hostile de pathogènes dans le milieu naturel. En tant que l'un des plus grands producteurs et exportateurs nets de produits agricoles et produits alimentaires dérivés de protéines animales, il y a de nombreux intérêts économiques vitaux impliqués également lorsque l'on traite de la santé animale et du bétail et du milieu naturel. Nous dépendons de ces exportations de produits alimentaires issus de l'agriculture. Certains pays d'Amérique latine dépendent parfois d'un seul produit agricole pour assurer l'équilibre de toute leur économie. Il s'agit donc d'un point particulièrement important pour nous qui est connecté aussi à la mise en place d'un mécanisme plus institutionnalisé. Le fait que l'article 7 n'ait jamais été utilisé a été rappelé à plusieurs reprises au cours de nos délibérations. Nous partageons cette évaluation positive, mais il faut se demander si ce serait bel et bien le cas, s'il existait un véritable mécanisme institutionnalisé au sein de la Convention pour transmettre les demandes d'assistance, notamment en cas d'utilisation hostile d'agents biologiques contre le bétail, contre les produits agricoles et l'environnement. Ces attaques hypothétiques peuvent être dévastatrices à cause de leurs conséquences économiques, mais ne mènent pas à des victimes humaines directes, ce qui nous amène à passer sous silence cette utilisation potentielle d'armes biologiques qui ne sont pas directement mortelles pour les êtres humains. Or, les mêmes mesures de réaction qui s'appliquent à l'utilisation potentielle d'agents biologiques contre des êtres humains doivent s'appliquer à l'utilisation de ces armes biologiques contre l'environnement, l'agriculture et le bétail. Au cours des discussions du MX1, on a dit que la meilleure protection contre les attaques biologiques, c'était l'efficacité des systèmes en place dans le pays et leur bonne répartition. De même, des systèmes bien en place dans nos pays permettront d'identifier les incidents, d'empêcher la propagation des pathogènes et d'éliminer une épidémie qui pourrait résulter de l'utilisation délibérée de ces agents pathogènes équivalents à du sabotage économique. La sécurité alimentaire et l'équilibre économique des pays touchés seront ainsi préservés grâce au travail de ces institutions, des scientifiques, des services vétérinaires et techniques qui travaillent sur le terrain. Cependant, c'est une situation qui nous pousse à nous poser la question, comment les pays peuvent-ils activer l'article 7? Ces attaques potentielles peuvent en outre avoir lieu dans un contexte qui rend la situation encore plus complexe. Si l'on imagine que ces agents biologiques pourraient être utilisés par des acteurs non étatiques et sans que ces attaques ne soient motivées politiquement. Donc, on pourrait avoir des attaques visant uniquement la concurrence commerciale, des intérêts économiques. Il pourrait y avoir également des atteintes contre des producteurs traditionnels de tel ou tel produit. Les gouvernements des États membres où se trouvent ces acteurs non étatiques ne seront peut-être même pas au courant des activités menées, ce qui pose des questions au niveau juridique quant à la responsabilité internationale. La sécurité alimentaire est une autre préoccupation de taille dont nous devons tenir compte, parce que cela a un impact non seulement sur les pays qui pourraient être victimes d'activités hostiles à cause d'agents pathogènes, cela met en péril en fait toute la sécurité alimentaire mondiale. Lors des débats au sein de UMX2, nous avons mis en lumière les risques liés aux évolutions récentes en macrobiologie un pathogène relâché dans un environnement délibérément peut traverser la frontière des espèces, ce qui aurait des conséquences catastrophiques. Donc, selon nous, nous commençons seulement à aborder certaines des questions qui auront un impact sur toutes les facettes des dispositions que devrait régir la Convention sur les armes biologiques. Je remercie donc l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, d'avoir adopté les directives qui viennent de nous être présentées et je souhaiterais, Monsieur le Président, revenir sur certaines parties pertinentes de ces lignes directrices. Premièrement, il me semble que ces lignes directrices reconnaissent à juste titre le paysage en plein changement, en des menaces que représentent les agents bactériologiques et les toxines. Il est important en outre d'assurer des procédures d'intervention qui viennent de nous être expliquées par la représentante de l'OIE, des procédures harmonisées. Et, troisièmement, la liste des indicateurs pour évaluer les événements suspects nous semble une liste exhaustive qui couvre tous les risques pertinents potentiels, notamment la résurgence de maladies éradiquées, l'apparition de maladies exotiques pour la région géographique ou le pays, l'élargissement de la prévalence géographique d'une maladie ou encore une épidémie présentant des caractéristiques inhabituelles. Ainsi que je l'avais déjà dit devant cette réunion d'experts, nous disposons d'un réseau de laboratoires et de surveillance qui inclut des laboratoires de niveau 3 à G. Je commence à connaître seulement ce niveau. C'est le niveau de sécurité en fait le plus élevé. 3 à G, c'est le niveau le plus élevé pour le bétail et l'agriculture. Il s'agit du premier laboratoire de par le monde qui a été certifié par la FAO. Merci, Monsieur le Président.